Section 3. L'artiste. Chapitre 23. Les dessins. Sommaire. Hugo dessinateur. Les deux époques et les deux manières du dessinateur. Les caractères du dessin à l'époque des tables. Les sujets. La technique et la matière. La hantise des ténèbres. On sait trop peu que Victor Hugo, qui cumula tant d'autres gloires, dessinait dans un style très original. Tout lui était prétexte à dessin. Sur le premier bout de papier qui lui tombait sous la main, fragments de journal, cartes de visite, tickets de théâtre, il fixait la vision du moment. Ce voyant était un tel visionnaire, ce visionnaire un tel visuel, qu'il lui fallait se représenter physiquement, par l'image, la scène à décrire en vers. Il serait du reste aussi fâcheux de négliger le dessin pour l'écrivain que d'ignorer l'artiste en expliquant le poète. Ses dessins fourniraient une excellente illustration de ses œuvres, et surtout, un excellent commentaire de son évolution littéraire. Car il va sans dire que son art a suivi la même courbe que sa poésie. Simplement soucieux de pittoresque quand elle est purement lyrique, il s'imprègne de symbolisme quand elle devient apocalyptique. La période des voies intérieures, des burgraves du Rhin, est représentée par des fleurs, des paysages, des burgs et des clochers gothiques, tandis que les dessins de l'exil sont facilement reconnaissables à leur inspiration hagarde. Spectres de la nuit et larves du rêve hantent l'artiste exilé et reçoivent de lui des formes hallucinantes. Les ombres que sa philosophie agnostique fait flotter dans sa poésie se concrètent sur le papier. Et pour traduire ses visions de cauchemar, ce n'est pas trop de toutes les nuances du noir. Énorme paquet d'encre renforcé de suie, de café noir, de sépia, de charbon, de jus de tabac. À ces empattements noirs se heurtent les taches blanches qu'il accuse davantage en les saupoudrant de farine. Et cela représente un Christ en croix, un griffon, une main étrange, une figure de chimère, c'est-à-dire toujours le mystère. Monsieur Écholier a très bien discerné ces manières successives de Victor Hugo dessinateur. Il a fort bien vu en particulier qu'à un certain moment, le sentiment hallucinant du mystère exaltait les dessins de Victor Hugo et les rapprochait des aquatintes de Goya et des eaux-fortes de Rembrandt. C'est le temps justement où son œuvre écrite se modèle sur les apocalypses de Saint-Jean et d'Ézéchiel et sur la rhétorique de Job. Mais l'on peut dire de son goyisme artistique ce que nous observions à propos de son apocalyptisme, qu'il exprime le tour nouveau donné à sa pensée par la crise des tables de Jersey. Le parallélisme de son art et de sa poésie est à ce point frappant que les spécimens les plus notables de sa tétralogie apocalyptique existent sous les deux formes, écrites et peintes. Ainsi, le griffon du poème « Dieu », ainsi encore la main tendue hors de l'ombre, que l'on peut voir au musée Hugo de la place des Vosges, et qui porte cette suscription « Figure de cauchemar ». Cette horrible main tentaculaire qui émerge de la brume, obsédante, comme détachée du corps et du bras qui la supporte, est la réplique dessinée de vers tels que ceci. Et l'on voyait sortir de l'abîme insondable une sinistre main qui s'ouvrait formidable. Légende des siècles, le sultan Mourad. Une sinistre main sortait de l'infini. Légende des siècles, la trompette du jugement. Et l'on vit une main qui retournait le temps. Toute la lyre, la guillotine. L'influence spirite sur l'art de Victor Hugo se fait sentir d'une façon plus ou moins immédiate. Elle est immédiate dans le choix de certains sujets. Le dolmen d'où me parlait la bouche d'ombre, figure de cauchemar, le champignon, ce que je vois dans l'obscurité, habitant de Sirius. Le champignon est une réalisation plastique des croyances hugoliennes en la métempsycose et en l'ascension humaine, croyances dont nous savons tout ce qu'elles doivent aux révélations de Jersey. Ce champignon, étrange fausse orange, à l'aspect attirant et vénéneux, taché de vert mousse, de rouge et de safran, recèle dans son ombrelle magnifique un mystérieux profil humain. Un petit carnet vert qui porte la date de 1856 cache entre ses feuillets des formes mystérieuses qui ont des contours tremblés et les promontoires cornus d'un continent déchiqueté sur un croquis de géographie. Ces êtres amorphes sont, quelques légendes l'indiquent, des habitants de Sirius. En voyant ici Hugo croquer des paysages stellaires et poursuivre, hors de la Terre, des silhouettes de vivants, comment ne pas songer aux préoccupations qui se font jour chez lui lors des séances de Jersey ? Victor Hugo, dis-moi, Les mondes autres que la Terre sont-ils habités?
Oui.
Par des êtres comme nous, âmes et corps?
Les uns oui, les autres non.
Séance du 13 septembre 1853. Que ces faces grimaçantes, burinées plus que modelées, soient expressives à l'excès, comment s'en étonner, écrit M. Raymond Echollier, quand on sait à quel degré le proscrit de Guernesey subissait alors l'influence du spiritisme. Ce ne sont d'ordinaire qu'apparitions, larves et fantômes. C'est ainsi que la maison de Victor Hugo possède une page semée de silhouettes bizarres, exécutée de toute évidence une de ces nuits où le poète, brusquement réveillé, saisit par terre les feuilles de papier qu'il griffonnait dans l'ombre. La genèse de ces formes confuses, ces mots inscrits sur le feuillet nous la révèle. Ce que je vois dans l'obscurité. L'influence spirite se fait encore sentir, mais d'une façon moins immédiate dans la technique de l'artiste et dans la hantise de l'ombre. Pour fixer ces images nouvelles, Hugo, écrit M. Henri Faucillon, inventa une matière et des outils. À l'encre, il mêle du café noir. L'artiste se servait de plumes faussées. C'est qu'elle crache. Parfois, il employait des allumettes cassées. Sur le dessin commencé, Hugo versait largement l'encre et le café et travaillait dans cette nuit mouvante qu'il répartissait à son gré en tirant parti des hasards de la catastrophe. Et ce que l'on voyait d'abord, c'était l'essentiel. La tache et la lueur, le combat épique du jour et des ténèbres autour de grandes formes vaguement apparues qui semblaient onduler et se hérisser sous cette pluie de rayons dans la marée montante des ombres. C'est le temps où le poète écrit à Baudelaire « Je suis tout heureuse et fière de ce que vous voulez bien penser des choses que j'appelle mes dessins à la plume. J'ai fini par y mêler du crayon, du fusain, de la sépia, du charbon, de la suie, et toutes sortes de mixtures bizarres qui arrivent à peu près à rendre ce que j'ai dans l'œil et surtout dans l'esprit. » Lettre du 29 avril 1860. Les ombres. Victor Hugo, a noté Émile Berton, reste le poète de l'ombre, mais il ne l'a pas toujours été. Ce débordement d'ombre noire qui va s'étendre toujours plus épais sur la seconde partie de l'œuvre du poète apparaît aussi dans ses dessins de l'exil après septembre 1853, dans le même temps que le poète écrit « L'homme est brumeux, le monde est noir, le ciel est sombre. Les formes de la nuit vont et viennent dans l'ombre, et nous, pâles, nous contemplons. » L'artiste excelle à fouiller les ténèbres nocturnes, à en dégager l'horreur, à les animer de faces aveugles, sortes de larves phosphorescentes qui circulent dans une lumière rare. À vrai dire, l'art plastique, mieux encore que l'expression littéraire, pouvait, en effet, traduire les rêves mi-conscients, les émotions hallucinées du proscrit. Ces dessins nous offrent la réalisation plastique de ces cauchemars spirites.